Radio Barque, pour cette 32e, notre sommaire a prévu, Michel, que tu te penches sur l'effet Macron sur les partis traditionnels et notamment sur les grandes villes de notre région, Montpellier,
oui.
Perpignan.
Bon, tout le monde a pu constater, Jean-Claude, que la première initiative prise par le nouveau président de la République a été de nommer un Premier ministre venant des Républicains et étant juppéiste notoire, maire d'une grande ville qui longtemps fut un bastion d'ailleurs du Parti communiste français.
Havre, oui.
Où la présence d'un syndicalisme, de type anarcho-syndicaliste est très, 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 très présente.
Les dockers du Havre,
exactement,
célèbres.
Dockers, oui, et puis surtout chantier naval, qui sont très, très, très importants. Bref, tout ça fait que le profil de ce nouveau Premier ministre est tout à fait original. Il est jeune, il vient des Républicains, il est centre-droit, juppéiste, et il vient d'une ville qui a une tradition ouvrière, en fait, et revendicative très forte. Je ferme la parenthèse. Donc, tout le monde, maintenant a pris ça, et a pu constater que l'engagement de Macron, c'est-à-dire d'organiser un mouvement, et à terme, certainement en septembre, en octobre, je n'en sais rien, un parti qui rassemblerait les progressistes venant de tous les bords, si je puis dire, de la droite, du centre, des Verts, et de la gauche, s'est concrétisé dans les faits. Et cette espèce de Big Bang, qui est en train de remodeler entièrement l'offre politique française de ce pays, qui est organisé depuis notamment le congrès d'Épinay, on peut dire ça, autour des deux grands partis, PS et puis...
— Ça fait une quarantaine d'années, pas loin. —
Tout ça explose en plein vol, est en train de produire des effets de ce type. Et évidemment, notre ex-région Languedoc-Roussillon n'est pas à l'abri de ce bing-bang. Et on constate des situations, des prises de position qui peuvent paraître curieuses aujourd'hui, mais qui sont dans la normalité de maintenant. C'était curieux hier, mais ça n'est plus aujourd'hui. Par exemple... Le propre adjoint de M. Pujol, le président de la métropole de Perpignan.
Romain Gros.
Monsieur Romain Gros. Alors on dira, oui, c'est un énarque, un intello, peu importe, c'est l'adjoint de M. Pujol, il est membre de sa majorité républicaine, centriste de la métropole, il est écarté aux Républicains, etc. Ben, boum. Il a été investi par le mouvement En Marche pour représenter M. Macron et le mouvement En Marche dans les Pyrénées-Orientales.
Oui, précisons aussi qu'il est le patron de EAS Industrie à Perpignan.
Oui, ce qui n'est pas rien, quoi. C'est une personnalité qui compte et qui, en ayant sollicité l'investiture et l'ayant obtenue, dans un département où le Front National est relativement important, le Parti Socialiste est en train de perdre des parts de marché pratiquement à chaque élection, va produire des effets sensibles des deux côtés. Le maire de Perpignan, le président de la métropole, M. Pujol, bien embêté dans cette affaire. Moi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une lettre à tous ses élus en disant « Mais oui, mais bon, d'accord, c'est pas bien, mais chacun chez moi, dans ma majorité, après tout, peut se tenir qu'il veut ». Et illico qu'a fait son autre adjointe, dont j'ai perdu le nom, une dame qui est la représentante de l'UDI, à la métropole, mais moi aussi je soutiens M. Gros. Voilà le genre d'effet que ça peut produire à droite, en tout cas de l'échiquier politique, dans le département des PO, dont on sait qu'effectivement, il est. Là, je parle de la droite, qui dans le passé était particulièrement structurée autour d'un seul slogan, d'un seul bonhomme, Alduy, ensuite M. Pujol, et qui maintenant est en train de se diviser entre sa partie libérale, si je puis dire, et la partie conservatrice.
Je précise une petite parenthèse, d'ailleurs, que M. Romain Gros a lui-même remis ses délégations, au moins pendant le temps de la campagne.
Oui, ce qui est le minimum, c'est un peu trop normal.
Je veux dire que le maire n'a pas eu besoin de les lui retirer.
Bon, voilà, sur Perpignan. Sur Montpellier, c'est un peu plus compliqué, en même temps, un peu plus subtil. Tout le monde se rappelle peut-être, mais j'insiste, le maire de Montpellier, le président de la métropole, M. Sorel, a conquis la ville de Montpellier et la métropole contre son ex-parti, le Parti Socialiste, en produisant des dégâts considérables dans cette fédération qui, je le rappelle quand même, est une des plus grosses... était une des plus grosses fédérations de France, après les Bouches-du-Rhône et celle du Nord-Pas-de-Calais. Ça part dans tous les sens.
Oui, et ça, c'était déjà il y a trois ans.
Il y a trois ans.
Il était éclaireur, en quelque sorte.
Trois ans. Au régional, donc, il en tire toutes les conséquences. Et il compose, en fait, il part, il constitue son mouvement. Hein, ce qu'il, d'ailleurs, entre parenthèses, l'amène à dire « Monsieur Macron m'a copié ». Bon, enfin, franchement, il aurait pu se passer de ce péché d'orgueil. Voilà. Être un peu plus modeste, quand même, dans le propos.
C'est une belle expression de sa modestie célèbre.
Oui, qui est bien connue, d'ailleurs, à Montpellier. Mais bon, et à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-Claude, j'avais fait une chronique dans laquelle j'expliquais qu'il ne pouvait pas faire autrement hein, que de partir pour pouvoir laminer le plus possible ce qui restait de son ancien parti, pour pouvoir, aux prochaines élections municipales, et donc à l'élection métropolitaine, conserver effectivement son pouvoir, au risque de se retrouver face à ses anciens amis du PS et reconstitué et face à la droite dans une posture compliquée.
En fait, c'est vrai qu'il avait lancé un processus et il fallait qu'il aille
au bout. Et il est allé jusqu'au bout pour les législatives qui viennent, au bout du bout, si je puis dire, puisque deux de ses adjointes, Patricia Miralles et Stéphanie Jeannin, ont obtenu en fait, l'investiture d'En Marche. Hein, d'En Marche, ce qui, évidemment... ne crée pas du désarroi, mais enfin, suscite l'ire, en fait, de ses anciens amis, j'insiste, du Parti Socialiste, et notamment de son premier fédéral, Hussein Bourgi, que je connais un peu, hein, qui n'est pas dans le genre, bon, à faire dans la nuance, hein, et qui, en même temps, d'ailleurs, hein, je parle de Sorel, non seulement a dégagé, bon, le PS sur sa, ce sont, je dirais, terrain de proximité,
zone,
la métropole, hein, mais l'a dégagé aussi du côté de littoral, en faisant quand même, ça c'est pas sympa de sa part, hein, je lui dirai le moment venu, en dégageant Annie-Yvonne Le Dain, il se trouve que je la connais bien, elle aussi, en fait, hein, elle fut la déléguée régionale à la recherche au transfert de technologie quand j'étais aux affaires à la région à l'époque. Tu sais si j'ai eu à me friter avec elle, si je puis dire, notamment sur le bord de l'INRA, qu'elle ne voulait pas et que je lui ai imposé. En fait.
Cette notion de dégagisme, une petite parenthèse, est amusante quand même.
Oui,
elle est apparue, là, avec Mélenchon, paraît-il.
C'est dramatique, parce que, pour Annie-Yvonne, elle a toujours soutenu le gouvernement et les propositions du gouvernement Valls. Toujours. Mmh. Elle a été une fidélité totale. Hein. Bon, ce que ses amis du PS n'ont pas, parce qu'ils sont tous amounistes ou presque. Donc elle se trouve en position difficile. Elle a quand même l'investiture. Hein, elle a quand même l'investiture. Elle donne sa signature pour l'élection présidentielle à En Marche. Donc, contestation. Elle obtient de Sorel qu'il sera son suppléant pour les prochaines législatives, et pam, Sorel dit, ben non, je suis plutôt suppléant, maintenant je dégage, je vais en marche, je dois débrouiller toi tout seul.
Voilà, c'est vrai que ça fait des situations.
Ça fait des situations quand même un peu particulières dans ces deux grandes villes, hein, notre région, qui méritaient d'être relevées, me semble-t-il.
Et alors, et Narbonne, quelle est la situation particulière de Narbonne?
Figure-toi, Jean-Claude, que j'ai pris connaissance plutôt d'une lettre adressée par le maire de Narbonne. Alors, je ne sais pas si c'était aux 17 candidats, mais en tout cas aux candidats les plus représentatifs, entre guillemets, de la circo, qui m'a laissé pantois. Alors, pantois parce que, bon, deux absurdités dans cette lettre. Bon, la première, c'est que le signataire précise que, aux futurs députés, quand vous siégerez, en fait, au Parlement. Bon, ça en a fait contour, parce que bon, quand on a un minimum de culture juridique, qu'on soit maire ou directeur de son cabinet, on devrait savoir qu'un député ne siège pas au Parlement, sauf dans des conditions très particulières, pour notamment réviser la Constitution.
Oui, le Parlement, pour être précis, est
la réunion,
des deux chambres.
Alors, un député, un candidat député, forcément, ne peut siéger qu'à l'Assemblée nationale.
En français d'aujourd'hui.
Enfin, bon, voilà. Donc, première confusion que j'ai trouvée un peu désagréable à l'oreille, en tout cas, qui probablement est passé inaperçu
pour
ceux qui l'ont lu. Je l'espère pas, en tout cas, pour les futurs députés.
Et la deuxième qui fut désagréable à tes oreilles.
La deuxième, quand même, c'est, franchement, Jean-Claude, demander à ces futurs candidats députés ce qu'ils feront pour obtenir des financements pour la salle multimodale et pour des caméras de visioconférence. Surveillance. Attends. Est-ce que nos auditeurs imaginent, en fait, un député qui a deux fonctions, hein, il vote les lois et il contrôle l'exécution des lois par le gouvernement. Alors t'imagines, tiens, M. Paria, pardon, il est élu député. À l'Assemblée, il va lever le doigt, en fait, aux questions pour le gouvernement, il va dire, Monsieur le ministre, hein, je souhaiterais savoir, en fait, j'ai déposé une proposition de loi, en fait, hein, sur le bureau de l'Assemblée, dans laquelle je demande une subvention pour la salle multimodale de 4 millions d'euros. C'est absurde, ça n'a pas de sens.
Bah ouais, voilà, on se trompe de porte, là.
On se trompe à la fois de porte, on se trompe de moment, on se trompe de personne. Hein. Donc, puis, un député n'est pas, je sais pas, moi, n'est pas un conseiller d'une collectivité locale. Il y en a sur le marché, hein, des gens qui vendent leurs conseils pour optimiser les financements. Bon, ça se trouve, ça coûte pas cher, donc, on pourrait trouver quelqu'un par la mairie de Narbonne, qui fasse le tour des popotes pour savoir qui peut donner 4 millions d'euros à la salle multimodale.
Oui, enfin, bon, voilà.
Il le paierait pour rien, parce que les fournisseurs pour ce genre de subvention, c'est la région et le département, et l'agglo. Il m'étonnerait que les trois en question filent de quelques ronds que ce soit, pardon de la vulgarité du qualificatif, à la salle multimodale en question, qui fait l'objet de toute une série de débats dans la circo.
Voilà, pour terminer sur ce style tout aussi familier, donc un député n'est pas là pour filer des ronds à une salle multimodale. Dans une commune, si je puis résumer ton argument. Encore qu'on va voir, Michel, que les députés, quand même, ont aussi une action locale, en tout cas une volonté, et on va poser la question dans quelques instants, tout de suite après la pause, à Alain Perea.